Yannick Petit au micro sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir, nous allons, avec notre invité, raviver la mémoire d'un écrivain, poète, humaniste, homme de radio et de télévision. Ce soir, nous parlerons de Max-Paul Fouché. Il est né en 1913, mort en 1980 et enterré dans Lyon, à Vézelay, où il a résidé ponctuellement. Notre invité, que je salue tout de suite et que j'accueille à bord de notre wagon livre, Adeline Baldacchino, bonsoir.
Bonsoir Yannick et merci de me recevoir.
Merci également à vous de vous être rendu disponible pour l'enregistrement de cet entretien que nous faisons d'ailleurs à l'hôtel Avalon-Vauban et je remercie monsieur et madame Barbe de nous accueillir dans leur établissement. Adeline Baldacchino, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sorti à l'automne 2013 aux éditions Michalon, ouvrage intitulé « Max-Paul Fouché, le feu, la flamme », avec pour sous-titre « Une rencontre ». On y reviendra d'ici quelques secondes. Je vous présente rapidement à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes né en 1982, c'est-à-dire 2 ans après la disparition de Max-Paul Fouché. Études de philo, brillantes études, Sciences Po, ENA, et vous êtes actuellement magistrate à la Cour des comptes. Adeline Baldacchino, avant d'entrer en matière, je reprends ce terme de rencontre. Comment s'est produite intellectuellement, peut-être sentimentalement, cette rencontre avec le poète, l'homme de lettres, homme de communication qu'est Max-Paul Fouché?
Alors c'est une rencontre effectivement assez improbable. Rien ne m'amenait naturellement à connaître, il faut bien le dire, Max-Paul Fouché, dont je n'avais pas entendu la voix sur les ondes ou à la télévision, ni même peut-être à le lire, parce qu'il faut l'avouer, on ne lit plus beaucoup Max-Paul Fouché. On lit de sa génération Camus, et on en reparlera. Mais Max-Paul Fouché est souvent un nom qu'on croise par hasard à l'occasion de la lecture d'une biographie de Camus, par exemple. Alors il s'est produit une série de hasards objectifs, comme aimaient dire les surréalistes, c'est-à-dire ces hasards qui n'en sont jamais tout à fait vraiment, qui m'a amené à rencontrer tout d'abord le nom de Max-Paul Fouché à l'occasion de la remise d'un prix de poésie qui pendant une trentaine d'années a été remis dans les Pyrénées par une association qui s'appelait l'Atelier Imaginaire. J'ai été invitée là-bas comme lycéenne. Je rencontrais des artistes, des comédiens, etc., comme une centaine de lycéens chaque année. J'ai découvert à ce moment-là qu'un livre qui était paru à la fin des années 90 s'appelait « Le passeur de rêves ». Et ensuite, parce que j'aimais la poésie, parce que j'en écrivais un petit peu, parce qu'un éditeur associatif de l'Aveyron m'avait proposé de réaliser un numéro de revue autour de ce qui était le moins connu, en plus de l'œuvre ou de la vie de Max-Paul Fouché, c'est-à-dire sa poésie, je me suis intéressée de plus près à ce parcours. J'ai rencontré sa fille, Marianne Fouché, très belle rencontre, tout près d'ici, effectivement, à Vézelay. J'ai découvert les archives dans la maison de Vézelay, dans la maison de la rue de Bièvre à Paris. Et j'ai eu cette envie, parce que je découvrais une série de résonances avec mon histoire personnelle, d'une certaine manière, j'ai eu cette envie de le suivre un moment, de mener un parcours biographique, c'est certain, mais sous une forme un peu particulière, puisque j'ai voulu entremêler aussi des séquences ou des interludes beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes, et d'une certaine façon, faire de la poésie par effraction en parlant d'un poète dont on se souvenait comme d'un homme de télévision. Voilà, donc c'est un peu un livre de paradoxe, d'où le qualificatif d'improbable.
Si mes sources sont bonnes, c'est un livre que vous avez rédigé en 2 mois en 2012, de manière à ce qu'il soit disponible en librairie pour le centenaire de la naissance de Max-Paul Fouché, c'est-à-dire l'année dernière, en 2013.
La source est bonne. C'est un livre qui a quand même une histoire beaucoup plus longue, parce que c'était d'une certaine manière, c'est une dizaine d'années à le porter. Enfin, c'est une sorte de gestation d'une dizaine d'années. Au total, entre la première rencontre, justement, en 99 avec Max-Paul Fouché, et la sortie du livre, c'est même plus, c'est presque une quinzaine d'années. Mais le moment de la rédaction lui-même, c'est le moment du passage à l'acte où une idée, une envie devient livre. Effectivement, c'est deux mois, fin 2012, j'étais venue chez Marianne pour le week-end de la Toussaint, chez Marianne Fouché. Je reste un moment dans le bureau de Max Paul, qu'elle a préservé et conservé en l'état. Il y a quand même, il y a un esprit de ce lieu.
Sur lequel trône encore le relais flex, notamment la machine à écrire.
L'appareil photo, la machine à écrire, les plumes, etc. C'est magnifique, c'est un
très
bel endroit.
C'est dans ce bureau que Max Paul Fouché a eu son malaise.
Aussi, effectivement, en août 1980. C'est là qu'il y a des sculptures aussi africaines qu'il aimait. C'est là qu'il écrivait surtout, c'est là qu'il venait écrire.
Et puis Adeline aussi, par les fenêtres, la vue sur ce paysage
extraordinaire,
qui l'a tant enchanté.
Bien sûr, sur ces brumes, sur cette... C'est très beau, il y a vraiment là un élément déclencheur. Je me souviens très bien d'être rentrée chez moi juste après ces deux jours et ce moment, et de m'être dit « il faut que ce soit maintenant ». Et je crois que je sais comment le faire. Et à partir de là, effectivement, ça s'est concrétisé finalement assez vite.
Alors, on a parlé de la naissance de ce livre. Maintenant, Adeline Baldacchino, parlons de la naissance de Max Paul Fouché, qui n'est pas une naissance anodine parce qu'à la limite, on frôle la légende.
Oui, Max Paul Fouché aimait le raconter et c'est une belle histoire. Puisqu'il est né d'abord le 1er mai 1913, pour un amoureux de la liberté, ça n'est pas complètement anodin, l'idée de naître le jour de la fête du travail, etc. Alors, il naît à Saint-Val-la-Hougue, en Normandie, et non pas en Algérie. D'ailleurs, on associe souvent Max Paul Fouché à Camus et à une jeunesse algérienne, c'est vrai, mais Max Paul Fouché n'est pas un pied noir. Il va en fait aller vivre plus tard en Algérie parce que son père avait été gazé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais il naît, lui...
Il naît normand. Est algérois d'adoption.
Absolument. Et il naît normand, mais surtout, il va être, et c'est une très belle histoire, il va être baptisé d'une goutte de Calvados sur l'un des trois bateaux de son père qui était armateur qui avait baptisé ses bateaux Liberté, Égalité et Fraternité. C'est sur le Liberté que Max Paul Fouché va être baptisé. C'est une belle histoire fondatrice.
Et entre la France et l'Angleterre.
Absolument, absolument.
Alors, la mer MER, l'océan, joue un rôle très important dans la vie de Max Paul, presque fonction érotique de la mer. Parce que vous, Adeline, votre livre, initialement, vous aviez envisagé de lui donner pour titre le titre d'un texte d'un poète mystique et que nous sommes la mer. C'était le titre envisagé initialement pour cet éloge biographique. Votre livre est un livre baroque. On n'y reviendra pas, mais il faut encourager les auditrices et auditeurs à se le procurer et à le lire aux éditions Michelon. Et que nous sommes la mer était le premier titre envisagé. La mer a un rôle particulier dans l'existence de Max Paul Fouché.
Alors, effectivement, ce titre est peut-être révélateur. Oui, c'était un vers, en fait, d'un poète persan du XIIe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Attar. Et j'avais envie, au départ, que la mer figure dans ce titre. Finalement, je suis partie vers un autre élément qui est le feu. Le feu et la flamme, et on y reviendra parce que ça dit quelque chose, notamment de la poésie. Max Paul Fouché ayant toujours considéré que le poème était la braise ou ce qui reste du feu qui est la vie elle-même, peut-être, est le plus essentiel, mais on y reviendra. La mer, c'est un élément fondateur et j'ai eu du mal, j'avoue, à savoir en l'écrivant si j'en avais fait ce caractère central, cette figure un peu particulière d'évocation du monde pour des raisons qui m'étaient personnelles ou qui tenaient au parcours de Max Paul. Et c'est sans doute un mélange des deux. Mais la mer, c'est aussi la mer en Algérie, puisque Max Paul va avec Camus marcher sur les chemins de la Bozaréa au-dessus d'Alger où il a une vue extraordinaire sur la Méditerranée. Et ce Normand, qui devient un Méditerranéen, va être formé intellectuellement dans ces paysages et dans cet environnement au sein duquel, évidemment, la mer, c'est-à-dire aussi l'appel du monde extérieur et plus tard des voyages, il va parcourir le monde, joue un rôle crucial.
L'Algérie, pour Camus comme pour notre Normand Max Paul Fouché, c'est aussi le lieu, la terre, le lieu de naissance de l'amour. Ils ont les mêmes admirations, la mer, les filles et aussi le désir de justice.
Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, en fait, que...
Au départ, tout va bien entre Camus et Max Paul.
Absolument.
Ils sont vraiment des amis.
Absolument.
Et puis, il va y avoir une rupture.
Une rupture définitive.
Alors, rupture qui, en fait, est incroyable parce que s'il n'y avait pas eu cette rupture, peut-être que Max-Paul Fouché et Camus auraient été la grande amitié littéraire du XXe siècle.
Enfin, oui, oui, j'ai eu presque envie à un moment, c'était une des autres pistes, d'écrire ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire quand on imagine d'écrire un livre où on change un petit fait de l'histoire et on se demande ce que l'histoire aurait été dans le cas où ce fait s'était produit. Et je me suis demandé, à un moment donné, je me suis dit, ça aurait été formidable d'imaginer ces frères jumeaux presque, Fouché et Camus, ayant fait un parcours commun, peut-être fondé ensemble la Revue de la Résistance que Max-Paul Fouché va fonder seul, etc. Mais c'est une autre histoire. Mais effectivement, Max-Paul Fouché rencontre Camus à Alger parce qu'il y est au lycée. Ils ont une formation commune, c'est-à-dire qu'en réalité, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ils lisent Nietzsche, ils lisent Dostoïevski, ils lisent Rimbaud. Ils découvrent la littérature et la philosophie ensemble à 17 ans. Ils découvrent l'amour, évidemment, au même moment. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une femme fatale qui s'appelle Simone Yeh. Et je dis femme fatale en choisissant très volontairement ce terme, parce qu'en réalité, elle a toutes les caractéristiques. Elle est à la fois très belle, très sombre. En réalité, elle est aussi morphinomane, c'est-à-dire droguée. Elle va avoir une vie extrêmement compliquée. C'est le premier grand amour de Max-Paul Fouché. Mais il se trouve que Max-Paul avait fondé la section des jeunesses socialistes d'Algérie et qu'il était amené pour recruter des jeunes au sein de son organisation à se promener beaucoup dans l'arrière-pays algérien. Et pendant ce temps-là, Simone Yeh noue ce qui est d'abord une amitié, qui devient vite beaucoup plus, avec Camus, et finit par choisir Camus, qui va l'annoncer un jour à Max-Paul Fouché, au Jardin d'Essai, en lui disant « Écoute, voilà, c'est avec moi qu'elle va en réalité se marier. » Et ça va être le premier mariage de Camus, un mariage compliqué, ils vont divorcer au bout de 2 ans, mais c'est à ce moment-là que ce qui avait démarré comme une très grande amitié, avec une correspondance d'ailleurs dont il reste encore quelques petites traces, va s'interrompre, même si on sait que Max-Paul, au moins, continuera de suivre de très près le parcours de Camus, et lui rendra d'ailleurs un hommage en 1960, après l'accident de voiture dans lequel Camus meurt très, très jeune, finalement, 20 ans avant Max-Paul Fouché. Max-Paul lui rendra un hommage extrêmement ému à la télévision.
Max-Paul Fouché a même envisagé d'écrire une biographie de Camus. Hein,
oui.
Sa vie. Ben, bon, le temps nous manque, Adeline, mais bon, je le signale parce qu'effectivement, peut-être.
D'ailleurs, c'est même sa fille, même Marine Fouché ne le savait pas. J'ai découvert dans les archives qui sont maintenant à Caen, à l'Institut pour la mémoire de l'édition contemporaine, il n'en avait presque pas parlé, mais il avait un contrat avec les éditions Grasset où il avait prévu d'écrire cette biographie et les plans que l'on peut consulter sont intéressants parce qu'on voit que ce qu'il décrit, c'est presque autant le parcours rêvé qui aurait pu être le leur à tous les deux que la vie même de Camus. Ce qui l'intéressait, c'est ce qui avait été les ressorts de la vie de Camus, et ces ressorts-là, ils étaient en fait les ressorts de sa passion à lui-même.
Nous sommes ce soir sur Radio avec Adeline Baldacchino. Elle est notre invitée pour Max-Paul Fouché, Le Feu, la Flamme, une rencontre, ouvrage disponible en librairie aux éditions Michelon. On marque un premier temps de pause. On vous propose d'écouter Tom Odell, A Novel Of. Excellente soirée sur Radio. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Oh. C'est une émission que nous plaçons sous le signe du sourire, hein, celui de Max-Paul Fouché, dont on a commémoré l'an passé, en 2013, le centenaire de la naissance. Max-Paul Fouché nous a quittés en 1980. Son souvenir demeure, un peu comme Le Secret, hein, qui est le titre d'un de ses recueils de poèmes. Et le souvenir est bien vivant ce soir grâce à notre invitée, Adeline Baldacchino, qui lui a consacré avec passion, amour, érudition, un livre hommage intitulé Max-Paul Fouché, Le feu, la flamme, une rencontre, ouvrage disponible aux éditions Michelon. Restons un peu sur, on s'est quitté sur la rupture Camus, Max-Paul Fouché, en raison d'une femme fatale. Parlons peut-être d'une autre femme, alors autre grosse souffrance, bon certes plaisir avec cette Jeanne Girardi, mais premier deuil, premier gros choc aussi pour Max-Paul Fouché, toujours en Algérie.
Oui, alors c'est un moment très particulier de la vie de Max-Paul, puisqu'on est à la fin des années 30 et en réalité au début de la Seconde Guerre mondiale. Et ces deux histoires vont s'entremêler en réalité, à la fois l'histoire d'un côté de l'engagement qui va être l'engagement de sa vie, l'engagement de Max-Paul Fouché qui crée une revue qui s'appelle Fontaine, qui est une des grandes revues de la résistance intellectuelle et littéraire française. Max-Paul Fouché, comme Camus, était tuberculeux, ne pouvait donc pas s'engager sur le front ou rejoindre De Gaulle, mais il fait ce choix de la résistance et de la poésie comme exercice spirituel, dit-il. Et c'est à ce moment-là, dans ces mêmes années-là, qu'il rencontre Jeanne, une jeune étudiante en littérature qui va, comme lui, passer l'agrégation, dont il va tomber peu à peu, et je dis peu à peu parce que ses carnets montrent que c'est une histoire à rebondissement, dont il va tomber peu à peu amoureux, et puis il se marie en réalité avec elle. Et histoire, je le disais, tragique aussi, puisque c'est le deuxième grand moment presque de légende, en tous les cas, tel que la reconstruira Max-Paul Fouché lui-même plus tard, quand il dira dans ses mémoires « Fontaine de mes jours », la manière dont il a conçu son parcours de vie et ce que signifiait pour lui la poésie. Il se passe en réalité un événement dramatique. Jeanne Girardi prend un bateau, un paquebot, qui s'appelle le Général Lamoricière, tout simplement, et doit rejoindre Marseille, où elle doit d'ailleurs rencontrer les Aragon, Elsa Triolet et Louis Aragon, récupérer des poèmes qu'elle doit lui rapporter, etc. Et au moment où elle embarque, Max-Paul Fouché, voyant s'éloigner le bateau, a cette sorte de vision quasi mystique, un peu étrange. Au lieu de voir le nom sur le bateau qui s'inscrit sur la coque, qui est Général Lamoricière, qui est un nom propre, il voit distinctement les différentes syllabes se détacher sous ses yeux et il voit écrit « là, mort, M-O-R-T, ici, R ». Et il dit être rentré chez lui très mal à l'aise, très perturbé, très, très inquiet, très angoissé. Avoir écrit d'ailleurs des poèmes qui entremêlent l'amour, la mort, la mer, l'eau, etc. Et en réalité, ce bateau fait naufrage près des îles Baléares, quelques jours plus tard, et Jeanne ne reviendra jamais.
La mer est fatale.
Et la mer devient effectivement cette figure fatale associée
qui confisque l'amour. C'est parce que je pensais à la Vénus anadiomène sortie des flots, ouais. Et là on a l'impression que c'est la mer qui reprend l'amour.
Qui la prend, qui la reprend, peut-être qui la redonnera.
Adeline Baldacchino, parlons du poète et rebelle Max-Paul Fouché. Vous avez déjà évoqué la revue Fontaine il y a quelques minutes. C'est le moment de parler de cette revue. Bon, initialement elle s'appelait Mitra, passons un peu. Elle écrit en 39 et Max-Paul Fouché, elle est installée en Algérie, à Alger, oui. Et Max-Paul Fouché va en devenir le directeur littéraire, oui. Le rédacteur en chef, enfin le meneur.
Oui, 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 absolument. Il en est vraiment à la fois l'instigateur, le gestionnaire, le directeur éditorial. Et elle a un rôle crucial parce que d'abord elle comprend des éditoriaux courageux rédigés par Max-Paul Fouché lui-même qui très vite dit par exemple nous ne sommes pas vaincus, il écrit un autre éditorial qui s'appelle Une seule patrie, la République comme volonté, comme imagination. Il affirme l'idée en réalité, il existe un espace pour la résistance intellectuelle et spirituelle, et organise un ensemble de circuits de transmission de la zone libre, puis de la zone occupée vers l'Algérie, pour donner, pour diffuser les grands textes, alors je le disais, d'Aragon, mais aussi de Paul Éluard, par exemple.
Le Cantique à Elsa, et puis il y a surtout ce poème Liberté.
Liberté, qui va devenir un des poèmes les plus connus de la, du corpus français, surtout qui est un, alors le poème Liberté d'Éluard, la particularité qu'il a, c'est que c'est une sorte de litanie où en fait, paragraphe après paragraphe, on a des images extraordinaires, des métaphores qui se succèdent, et Max-Paul Fouché raconte comment en réalité il a réussi à franchir l'obstacle de la censure, parce que tout le poème décrit un seul mot dont on découvre à la fin que ce seul mot c'est le mot liberté, ce qui est évidemment un message très subversif en pleine occupation, et Max-Paul raconte qu'en réalité il avait convaincu le censeur que c'était un poème dédié à l'amour et à une femme et que ça n'était pas la peine de le lire jusqu'au bout.
Fontaine va augmenter son nombre de pages, mais de 40 à 42, il y a quand même 4000 exemplaires. Après le débarquement, la revue est tirée à 10 000 exemplaires, et cette revue Fontaine porte bien son nom, quoi. Il y a un jaillissement à la fois d'idées, de rébellion, de contestation, et c'est une manière aussi de résister. Alors, il résistera aussi par quelques missions, il se rendra en Grande-Bretagne, notamment.
Oui, alors
même si De Gaulle est pas, il ne gardera pas de De Gaulle une image très positive.
C'est vrai, il n'est pas devenu un compagnon de De Gaulle, même s'il a admiré son action. Mais il avait des réserves sur l'homme et sur la démarche qu'il a eue après la guerre. Mais effectivement, il a fait le choix de concevoir la poésie. Il dit quelque part comme révélation. C'est le versant un peu mystique et spirituel, et comme révolution, et c'est le versant de l'action. Et pour lui, publier cette revue, qui d'ailleurs va être larguée sur les maquis de la résistance française par des avions britanniques, sous un format miniature, René Char, après la guerre, va lui apporter cet exemplaire taché du sang d'un résistant tombé sous le feu allemand. Cette revue-là, c'est une manière aussi, en diffusant d'ailleurs des poètes britanniques, américains, elle va être ensuite traduite et elle-même diffusée en Amérique latine. C'est une manière de garder, d'avoir un pied dans l'action, considérant que la littérature ou que la poésie n'ont de force et de sens que si elles vont au-delà de l'approche simplement esthétique pour ramener à l'essentiel les lecteurs.
Alors, la revue Fontaine, Max-Paul Fouché, va l'animer jusqu'à la fin de cette revue, c'est-à-dire 1948,
semble-t-il. Oui, en réalité, c'est essentiellement pendant la guerre. Au sortir de la guerre, le champ littéraire se réorganise très largement, de nouvelles revues sont créées. Continuer d'agir et de publier depuis Alger est compliqué parce qu'il y a une concurrence d'une certaine façon parisienne qui s'organise, et puis Max-Paul Fouché lui-même a envie de changer d'univers, de rencontrer en personne ces poètes avec lesquels il a si longtemps correspondu, et monte sur la capitale, il va à Paris.
La revue devient parisienne.
Et la revue, quand elle devient parisienne, perd de sa force parce qu'elle perd de son originalité, parce qu'il y en a d'autres à côté, parce qu'elle devient compliquée tout simplement à fabriquer. Il y a des problèmes de gestion, des problèmes d'argent, etc. Et en 1948, finalement, l'aventure s'arrête là et c'est une autre étape de la vie de Max-Paul qui commence.
Alors Max-Paul Fouché ne garde pas un bon souvenir du général de Gaulle. Il y a une rencontre en 43, en novembre 43, et vous écrivez, Adeline, c'est une rencontre ratée. Max-Paul n'a pas aimé cette figure militaire, cet homme un peu raide.
C'est une rencontre un peu ratée. Difficile de savoir exactement comment et pourquoi. D'abord, ce sont sans doute des tempéraments un peu incompatibles. Max-Paul Fouché, au fond, c'est une veine très libertaire. Et en face de lui, il a effectivement un grand homme, un grand homme qui croit aux valeurs fondamentales de la patrie, de l'armée, qui ne sont pas celles dans lesquelles Max-Paul Fouché se reconnaît au départ. Et il a peur d'une dérive autoritaire, autocratique de De Gaulle, et il fait le choix de préserver sa liberté et de continuer son aventure sur le versant culturel, de la communication et puis de l'audiovisuel.
Je suis sûr que notre invitée Adeline Baldacchino vous donne l'envie d'aller découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Max-Paul Fouché. En tout cas, vous pouvez le faire à travers l'ouvrage qu'elle signe aux éditions Michalon et qui a pour titre « Max-Paul Fouché, le feu, la flamme » avec comme sous-titre « Une rencontre ». On se retrouve dans quelques minutes, nouvelle escale musicale avec Lord, on écoute « Royals ». Et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radio.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold.
We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
I'll rule.
I'll rule.
Let me live that fantasy.
Oh.
Prenez notre émission en cours de route, sachez que vous suivez le rendez-vous littéraire de Radion, c'est Wagon Livre, un wagon livre consacré ce soir aux poètes, hommes de lettres, qu'est-ce qu'on peut dire Adeline Baldacchino, hommes de radio, hommes de télévision, humanistes,
beaucoup de choses,
beaucoup
touche
de
à tout,
à
disait-il, parce que tout me touche.
Max-Paul Fouché qui donc mis totalement en lumière ce soir à travers l'ouvrage d'Adeline Baldacchino qui a la gentillesse d'être avec nous devant notre micro pour son ouvrage paru aux éditions Michalon à l'automne dernier, ouvrage qui a pour titre Max-Paul Fouché, Le feu, la flamme. Alors, on a parlé de la revue Fontaine, l'aventure de Fontaine se termine fin des années, oui, années 48, 47, 48. Max-Paul Fouché va avoir des moments aussi un peu difficiles dans la vie, il faut gagner sa vie, il faut se faire connaître. Bien sûr, il donnera beaucoup de cours, passionné d'art. Parlons un petit peu de cet amoureux des arts, Adeline, je ne sais pas comment... Comment aborder Max Paul maintenant? Comment continuer la rencontre? Est-ce qu'on parle aussi peut-être de la rencontre Max Paul Fouché, la Bourgogne et Vézelay?
Oui, alors, en réalité, effectivement, c'est ce qui le rend à la fois passionnant et parfois un peu difficile à suivre et parfois inclassable. C'est qu'il aime la vie, d'abord. C'est un gourmand, d'ailleurs, au sens le plus concret du terme. Il voyage. Il voyage beaucoup, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il voyage pour parler de littérature. Il voyage pour parler de ses passions. Et puis, c'est aussi un homme de paradoxe, on le disait. Alors, à un moment, il va vouloir se fixer quelque part, ou en tout cas, trouver un lieu qui lui permette de faire escale ou de jeter l'ancre. On est dans les années 50. Max Paul Fouché est allé en Afrique, notamment. Il est allé aux Antilles, il est allé en Amérique latine. Il en rapporte d'ailleurs des très beaux livres qui ne sont pas vraiment des livres de voyage, mais des livres mêlant la photographie et la réflexion un peu lyrique sur ce qu'est l'âme d'un peuple, sur les arts, ce qu'on appellera un petit peu plus tard, les arts premiers, par exemple, lorsqu'il revient d'Afrique. Et puis là, il se trouve qu'il a un accident au Cameroun, un accident de voiture un peu banal, j'ai envie de dire, mais assez grave, qui va l'obliger à quelques semaines de convalescence. Et un petit peu par hasard, il va venir passer chez une amie quelques jours dans le village de Vézelay. Il va en tomber amoureux, découvrir une maison médiévale qui s'appelle toujours la maison de l'Argenterie, qui est rue des Écoles à Vézelay, et il va l'acheter. Et pendant les 30 ans qui vont suivre, en réalité, c'est le lieu où il va revenir très régulièrement de Paris pour y passer soit quelques jours, soit les mois d'été notamment, pour y écrire dans la solitude, dans le silence, préparer les fameuses émissions de télévision, de radio par lesquelles il va se faire passeur.
Et cette maison, il aime, il en caresse les murs.
Il y a une relation, oui, il y a une relation quasi charnelle, j'ai envie de dire, à ces pierres qui lui parlent d'une certaine façon, à cet environnement qui est en même temps austère et sobre, qui le renvoie peut-être à ce rêve qu'il avait un instant caressé à 20 ans quand il se retrouve dans un sanatorium où il est soigné pour la tuberculose, de devenir moine franciscain. Alors c'est très furtif et c'est très passager, d'autant plus que Max Paul Fouché n'a pas la foi, il se dit agnostique. Agnostique mystique, dit-il, mais c'est-à-dire qu'il laisse toute la place ouverte au doute, mais c'est avant tout un grand vivant, un poète, un passionné de vie. Mais néanmoins, il a cette sorte de goût pour une austérité qui renvoie à la liberté profonde de la solitude et à l'essentiel chez l'homme qu'il quête à travers la poésie.
Adeline Baldacchino, je reprends le titre « Le feu, la flamme » dans votre ouvrage. Ce feu, ces flammes, elles ont sans doute été très présentes dans cette grande cheminée de la maison de l'Argenterie, cette maison donc Max Paul Fouché acquiert en 57, me semble-t-il. Et sur des photos de Jean-Paul Sterck, on voit des fagots de sarments de vigne qui alimentaient ce feu. Il faut dire aussi que Max Paul Fouché aime Vézelay. Effectivement, c'est un lieu d'isolement. Il va au café, je crois, quand il a besoin de téléphoner, il descend. Téléphoner parfois peut-être aussi à de nombreuses maîtresses.
C'est possible. Il aimait la vie, il aimait les femmes. Il en a connu beaucoup.
Et cette maison donc de Vézelay est aujourd'hui... c'est la maison de Max Paul Fouché, habitée par sa fille, Marie-Anne Fouché, que nous pouvons saluer bien évidemment avec beaucoup d'amitié. Et à Vézelay, effectivement, il y trouve un lieu tout à fait propice à la préparation de ses chroniques. Et c'est là peut-être qu'au départ, Max Paul Fouché a un peu de réticence à l'égard de la télévision qu'il a découverte lors de voyages aux États-Unis.
En réalité, Max Paul Fouché, c'est d'abord un homme des lettres, un homme des mots, c'est vrai. À 17 ans, avec Camus, ce qu'il rêve de faire, c'est d'écrire de grands livres, c'est d'avoir une œuvre. Au fond, c'est d'avoir le parcours qui sera celui de Camus. Et puis, il va découvrir ce nouveau média grâce à Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet, qui ont une émission, à l'époque, une des premières émissions de l'ORTF, qui s'appelle « Lecture pour tous ». Et on lui propose, là, de venir, et pendant quelques minutes, d'expliquer pourquoi il aime un livre, ce qui est intéressant dans ce livre, pourquoi il faut le lire. Et en réalité, il improvise assez largement au sens où il n'arrive pas avec un texte préécrit ligne à ligne, mais ce sont des émissions soigneusement préparées. Il va se rendre compte que c'est un vecteur extraordinaire pour une culture populaire au sens le plus positif du terme. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il faut vulgariser, parce que vulgariser, ça n'est pas, dit-il, simplifier, c'est clarifier, c'est rendre possible l'accès à de grandes œuvres, et alors œuvres au sens le plus large, puisqu'il va parler de livres, mais aussi de peinture, mais aussi de musique. Il va présenter pendant des années des œuvres lyriques ou des opéras à la télévision. Et il est persuadé qu'on peut amener, prendre par la main le lecteur, l'auditeur, le spectateur, pour l'amener, dit-il, le conduire au secret des œuvres, lui donner toutes les clés pour ensuite faire la route dans la solitude.
C'est remplir le rôle de passeur, quoi.
Complètement.
Vraiment être le passeur.
Complètement.
En 54, à la télévision, Max-Paul Fouché se retrouve à la tête d'une émission qui a pour titre le fil de la vie. Et peut-être, et ça c'est même une certitude, sa liberté de parole, sa liberté d'expression ne va pas être appréciée par le pouvoir. Il faut dire qu'on est en 54, on est dans les événements d'Algérie, dans les opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Et l'Algérie, c'est pas n'importe quel pays pour Max-Paul Fouché, forcément.
Oui. Alors c'est à la fois Max-Paul Fouché a toujours été très clair. Et sur sa position sur la guerre d'Algérie. Et en même temps, il avait cette position un peu particulière qui le conduisait à n'être pas pied noir, je le disais, mais à connaître très bien l'Algérie où il avait vécu très jeune. Et il dit, en fait, avoir relu à ce moment-là des pages de son carnet des années 30 où il notait la misère qu'il constatait, où il notait l'inégalité, etc. Et avoir été clairement renvoyé à ce en quoi il avait toujours cru, c'est-à-dire l'égalité dans la citoyenneté de chacun. Et effectivement, il va tout en espérant une solution, pacifique, en pensant que l'on peut éviter le drame, ce qui finalement ne sera pas possible. Mais il a toujours une position très claire sur les manquements d'une certaine manière de la France et ce qu'il aurait fallu faire pour éviter le drame de 62.
Bon, en mars 56, il prononce des propos très engagés sous le titre « Algérie, notre conscience ». En 57, il plaide pour l'abolition de la peine de mort. L'émission sera interdite, supprimée en 58.
En réalité, effectivement, il est en
permanence
sur le fil. Est-ce qu'il est censuré ? Il refuse la censure, absolument. Et donc, il refuse de continuer son émission s'il n'a pas le droit de parler de ce qui l'intéresse. Ça passe ou ça ne passe pas, ça finira par ne plus passer. Et d'ailleurs, c'est ce qui va expliquer qu'il disparaît quasiment du petit écran après 68, d'autant qu'il a pris, on dira pas la tête, mais il a joué un rôle très important dans les événements de 68 au sein du syndicat des producteurs de l'ORTF. Il a voulu porter la voix de la liberté à la télévision. Et à partir de là, il aura encore quelques chroniques, de temps en temps des interventions, etc. Mais il n'a plus effectivement son émission hebdomadaire ou la liberté de monter des émissions régulières sur les arts, Terre des Arts ou l'aventure de la lumière qu'il avait porté. Voilà, il va donc retrouver sa liberté en dehors de l'aventure audiovisuelle à partir des années 70.
Max-Paul Fouché disait d'ailleurs « La télévision est pour moi un exercice de conscience ».
Oui, 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 ce qui est particulier parce que ça veut bien dire qu'elle le renvoyait à un engagement intellectuel.
Adeline, si vous en êtes d'accord, on marque une nouvelle petite escale musicale. Je vous propose un titre, peut-être d'un peu de circonstance, qui en tout cas fera le lien avec le voyageur et l'âme de voyageur qui était Max-Paul Fouché. Nous écoutons Sur la route et c'est Gérard Depardieu.
Je suis loose. pressés. N'aurait-on pas pu attendre un été? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Je me dissociais plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sentiment profond de solitude, je ne m'apercevais pas. Tu étais derrière chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. J'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée.
Retour à bord de Wagon Livre. Je rappelle que si vous avez raté le début de cette émission, au cours de laquelle nous recevons Aline Baldacchino pour son livre Max Paul Fouché, Le Feu, la Flamme, vous retrouverez d'ici quelques jours en podcast sur le site de Radion l'intégralité de notre entretien. Aline Baldacchino, on a le sentiment aujourd'hui que Max Paul Fouché est insuffisamment mis en valeur. N'a-t-il pas été oublié? Et justement, par rapport peut-être à de jeunes lectrices, de jeunes lecteurs, car vous avez été une jeune lectrice de Max Paul Fouché. Comment redécouvrir l'œuvre de Max Paul? Aiguillez-nous un petit peu vers son unique roman, vers sa poésie, et puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de la fin de la vie de Max Paul Fouché. Alors, d'abord, Max Paul Fouché, insuffisamment mis en valeur peut-être par le milieu littéraire, par l'univers culturel, vrai, faux, à nuancer?
Alors, la caractéristique, je crois, de Max Paul Fouché, c'est qu'il a été toute sa vie un peu inclassable, parce qu'il aimait, on l'a dit, beaucoup de choses. Il aimait à la fois la littérature, qui est son point de départ, la poésie à laquelle il revient toujours. Il dit qu'il souhaite la poésie omniprésente parce qu'elle est le moyen de connaître l'homme, elle résulte d'une volonté d'atteindre l'intérieur, comme il dit. Bon. Mais il s'est aussi beaucoup préoccupé, on l'a dit, de tous les autres arts, et surtout il a été un homme de médias au moment même où la télévision croyait encore que la culture devait y occuper une place centrale. Et quand on est inclassable, on devient un peu invisible. S'ajoute à ça le fait que Max Paul Fouché n'était pas un homme que l'on pouvait associer facilement à un réseau, à un cénacle, à un mouvement en particulier. Et donc, on ne peut pas dire de Max Paul Fouché qu'il a été surréaliste. On ne peut pas dire de Max Paul Fouché qu'il a été l'un des compagnons de route, comme on disait, du Parti communiste. On ne peut que difficilement savoir exactement où le situer dans l'histoire de ce XXe siècle. Et c'est, je pense, ce qui le rend un peu difficile d'accès. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? Je crois que d'abord, on peut lire, il faut lire. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est facilement disponible aux éditions Actes Sud. C'est un recueil assez court de très beaux poèmes lyriques. Ça s'appelle « Demeure le secret ». Je pense que découvrir ce personnage, parce qu'il y a le plus comptait pour lui, au fond, qui était la poésie, c'est encore la plus belle porte d'entrée aujourd'hui. Et puis ensuite, on peut aller regarder le reste de son œuvre, parce que, évidemment, il a réellement voulu, il a eu toute sa vie ce désir d'œuvre, d'une œuvre personnelle, qu'il a, pendant des années, mise de côté presque, ou entre parenthèses, pour se faire passeur, on le disait, pour parler de l'œuvre des autres. Et un jour, à la fin de sa vie, dans les années 70, quand il n'est plus à la télévision et qu'il revient à ce rêve initial, il se dit « je vais enfin l'écrire ». Quoi ? Ce roman. Et il écrit un roman qui est disponible chez Grasset, dans la collection des Cahiers Rouges, et qui s'appelle « La rencontre de Santa Cruz ». Et « La rencontre de Santa Cruz », c'est un beau roman, encore tout à fait lisible aujourd'hui, avec le décalage de l'histoire, avec une forme de rêve de jeune homme explorateur. En réalité, ça se passe dans une Amérique latine presque imaginaire. Santa Cruz, c'est un endroit un peu non identifié, probablement en Bolivie, où se retrouve un narrateur qui rêve de faire la révolution. Enfin, c'est un écrivain un peu raté, hein, le héros de ce livre, qui se retrouve coincé par un accident d'avion à Santa Cruz, découvre des révolutionnaires qui ont engagé toute leur vie et tout leur destin pour changer le monde, et se dit « je vais les aider et je vais mourir avec eux ». Et même ça, ça lui est refusé, parce qu'en réalité, juste avant de passer devant le peloton d'exécution, le commandant local vient le chercher et lui dit mais vous, l'écrivain, vous n'êtes pas d'ici, vous n'avez rien à voir à faire avec cette révolution, et je vais vous remettre dans l'avion du retour. » Et c'est une sorte de métaphore ou de parabole d'un destin un peu raté, dans ce roman, qui nous renvoie à l'angoisse fondamentale de Max Paul sur les dernières années de sa vie, une angoisse qu'il a mis sous une forme, en tout cas il a utilisé une formule pour la qualifier, moi qui m'a beaucoup marquée, beaucoup touchée, et qu'il appelle l'espace entre ce que le cœur désire et ce qu'il obtient. Et il essaye sans cesse, au fond, d'explorer cet espace-là, et ce qui se joue entre les rêves de l'adolescent et la vie qu'on a pu mener quand on se retourne sur la fin.
Une autre citation de Max Paul Fouché que vous reproduisez dans votre ouvrage, Adeline Baldacchino, la suivante, elle concerne le bonheur. Max Paul Fouché dit du bonheur, il donne des ailes, mais il est plein d'oiseaux morts. C'est quand même un peu sombre.
C'est assez sombre et c'est très beau en même temps. C'est vraiment la question récurrente de la trace, finalement. Quand on se retourne, et ce sont les pages un peu d'une écriture d'ailleurs changeante et un peu torturée, parce qu'il avait des douleurs dans la main à la fin de sa vie, et on voit bien la matière même, hein, de l'encre, du papier, la manière dont il écrit change. Il se retourne sur le passé. Et il voit ces moments magnifiques de sa vie. Il a été, on peut dire que c'est un homme qui a eu de grands moments de bonheur, qui a fait de très belles choses. Et puis, il voit aussi tout ce qu'il n'a pas fait. Et il se demande si la trace qu'il va laisser, est-ce qu'on laisse vraiment une trace d'ailleurs, mais en tout cas on laisse des mots, est à la hauteur de ce qu'il rêvait et ce que lui réserve encore ou non la vie. Et donc il y a une dimension au-delà de la dimension libertaire de sa réflexion, je le disais tout à l'heure, il y a aussi une dimension tragique permanente dans la vie et dans la conception qu'il peut avoir de la poésie.
En tout cas, il disait « la poésie est ma femme, les autres activités sont mes maîtresses ». Alors, redécouvrons, hein, je crois que nous tous, on peut aller relire le grand poème Héraclès, relire les différents textes de Max Paul Fouché, pardon. Une rencontre, en tout cas, à provoquer, si on ne connaît pas Max Paul Fouché. Et puis, bien sûr, la rencontre, elle est aussi possible avec Max Paul à travers l'ouvrage Adeline Baldacchino, avec un cahier central de photographie en noir et blanc. Votre ouvrage, Adeline Baldacchino, bien évidemment disponible en librairie aux éditions Michalon. Max Paul Fouché, Le Feu, La Flamme, une rencontre. Merci, Adeline, d'avoir incarner ce feu et cette flamme ce soir devant notre micro. Je remercie une fois de plus monsieur et madame Barbe, les propriétaires de l'hôtel à Vallon-Vauban, qui nous ont accueillis dans leur salon pour enregistrer cet entretien. Et puis, redécouvrons Max Paul Fouché, donc ce parcours d'humaniste, cet homme de lettres à l'œuvre inclassable, cet homme de radio et de télévision. Encore merci, Adeline. Et puis tout de suite, le coup de cœur d'Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde à Avallon.
Merci beaucoup Yannick.
La séquence coup de cœur avec notre libraire partenaire Evelyne Levallois de L'Autre Monde. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Direction un polar ce soir.
Oui, avec Dominique Sylvain, qui est un des auteurs de polar français confirmé et plus que confirmé. Son dernier policier s'appelle Ombres et Lumières et Soleil, pardon, aux éditions Viviane Ami, comme toujours. Il y a différentes séries chez Dominique Sylvain. Il y a la série Louise Morvan et il y a surtout celle que je préfère, la série Lola Jost et Ingrid Diesel. Ici, Lola et Ingrid. C'est vraiment un tandem très drôle qui marche très bien. Lola Jost, c'est une commissaire en retraite, elle est rondouillarde, elle a des problèmes cardiaques, elle est fan de Porto et de puzzle. On est donc assez loin des romans policiers américains gonflés aux hormones. Par contre, Ingrid Diesel, elle est masseuse et stripteaseuse. Elle a pour le coup une super condition physique dans tous les sens du terme. C'est une jeune américaine qui multiplie les fautes de français et c'est vraiment assez drôle. Donc c'est un tandem qui est drôle, efficace, il y a un petit côté Miss Marple, il y a un côté film d'action aussi. On est toujours chez Dominique Sylvain, et c'est ça qui est toujours très plaisant, dans un univers où il y a des valeurs fortes, l'amitié, la confiance. Donc au tout début de cette nouvelle enquête, qui doit être la 6e ou 7e, un ex-collègue de Lola Jost, Sacha Duguin, est accusé de meurtre, et Lola, car Ingrid au tout début du roman est partie aux États-Unis, va tenter de prouver son innocence. Donc c'est un roman avec beaucoup d'ambition, beaucoup plus qu'il n'y paraît, parce qu'on va parler services secrets, on va parler France-Afrique, on va parler milieu d'affaires, milieu politique. Il y a plein de choses tirées de l'actualité de ces dernières années, mais c'est complètement revu, donc on sait qu'elle fait référence à quelque chose sans vraiment le savoir, et c'est pas grave en fait, hein, parce que tout ça est retravaillé dans un roman très très bien construit autour d'un meurtre assez étrange.
C'est donc Ombres et Soleil de Dominique Sylvain, c'est aux éditions Viviane Ami. Les prochains rendez-vous des apéros de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Evelyne, alors à la fin du mois, le vendredi 30 mai, tu reçois un historien et anthropologue.
Oui, Jean-Yves Boursier, qui nous parle de Armand Simoneau, qui était communiste, bûcheron, résistant, dans le Morvan, du côté de Carré-les-Tombes-Saint-Léger-Vauban.
Mais qui a en fait aussi été beaucoup à la manœuvre avec les gars de Ravière, dans le Tonnerrois. C'est aux éditions de l'Harmattan. Et effectivement, il a été le premier résistant FTP, c'est-à-dire franc-tireur et partisan, donc finalement très étroitement lié au parti communiste clandestin. Et on suit le parcours de cet homme qui est mort en 84, à travers le récit de cette vie formidable. D'ailleurs, Armand Simoneau n'a pas été que bûcheron, n'a pas été que résistant, puisqu'il sera aussi le garde du corps de Charles Tillon, un communiste bien connu, choisi par le général de Gaulle en 45-46 pour devenir ministre de l'air. C'est une épopée extraordinaire que retrace Jean-Yves Kellerly. Donc c'est le 30 mai, 18h30, avec Jean-Yves Boursier, c'est la librairie L'Autre Monde. Alors au mois de juin, la librairie enchaîne les rendez-vous et les auteurs.
Oui, on va commencer avec Lola Lafont, la petite... Eh non, j'oublie les éditions Potentilles, le 6 juin.
Le 6 juin, avec Geneviève Peignet, effectivement, qui est auteur, poète, qui, effectivement, viendra présenté les éditions Potenti et son recueil de poèmes. C'est le 6 juin, effectivement.
Ensuite, Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais, qui est parue aux éditions Actes Sud, donc le 19 juin à 18h30, toujours. Ensuite, il y aura Jacques Capla avec Changeons d'agriculture, toujours aux éditions Actes Sud. Là, c'est le 20 juin à 18h30 à la librairie. On passe ensuite...
Ah, ça sera l'appel ?
Au 27 juin.
J'avais vu le 18 juin. Non, il n'y a rien le 18 juin.
Non.
C'est le 27 juin avec un premier roman de Pascal Faudrier, un roman fresque sur l'histoire de la gauche révolutionnaire de 1792 jusqu'en mai 68, même post-68.
Post-68 aussi. Oui, oui, voilà.
27 juin, donc Pascal Faudrier pour son roman Les Rouges, c'est au Seuil.
Et le 28 juin, Isabelle Saporta pour l'essai qui fait beaucoup de bruit actuellement, Vino Business, ou comment on trafique les bouteilles de vin en France, en gros. Hein, voilà.
Donc des pages et des cépages.
Exactement, chez Albin Michel. Bravo Yannick.
C'est le 28 juin.
Au Cave de la Halle.
Au Cave de la Halle à Avallon. Et en juillet.
La dédicace d'Isabelle Asensio pour son dernier ouvrage qui s'appelle Un poisson sans bicyclette, paru aux éditions Verticales.
Merci Evelyne pour toutes ces informations. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre coup de cœur. Je rappelle que le 16 mai, c'est à la ferme de la Fosse d'Yonne, c'est du côté de Tonnerre. Bernard Lecomte présente à partir de 20h sa biographie de Gorbatchev. C'est organisé par des confrères de Plume et Images, la librairie tonnerroise. Et puis, on n'oublie pas un petit clin d'œil du côté d'Auxerre avec le festival Caractère mené par Grégoire Courtois. Et là, c'est les 23, 24, 25 mai, c'est à l'abbaye Saint-Germain. Et puis pour ma part, Evelyne, ben Wagon Livre, c'est la semaine prochaine, 21 mai, où là encore, on revient sur l'épisode de la Résistance avec une interview qui a été réalisée d'ailleurs à la librairie. Avec Noël Renaud, nous évoquerons le Maquis Serge, dirigé par Gérard Drouin, alias Serge. Et Noël Renaud sera notre invité. Elle nous parlera bien sûr de ces hommes qu'elle sort de l'ombre, des hommes qui ont lutté parfois jusqu'à la mort contre l'occupant. C'est mercredi prochain à 21h, toujours sur Radio Next. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir Evelyne.
Au revoir.
Et à toutes et à tous, au revoir et merci.